Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour, voilà, nous sommes heureux de nous retrouver pour une nouvelle méditation ce matin. Et nous allons donc aborder un sujet qui nous laisse réfléchir. Et je vous propose tout simplement, je vais faire simplement une citation que Jésus nous laisse dans l'évangile de Matthieu. Et il nous dit ceci, « Que servirait-il à un homme ? Que donnerait un homme pour gagner le monde entier ?» S'il perdait son âme, il y a une autre version que nous avons dans une autre Bible qui nous dit ceci, si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il en perdant son âme? Voilà donc pour cette citation et nous allons maintenant faire une lecture dans un autre passage qui se trouve tout simplement dans le psaume 49 et nous allons lire quelques versets. Et il y a un verset particulier que j'aimerais simplement mettre en évidence. Au verset 6 d'abord, nous allons commencer, le poète, le psalmiste dit ceci, « Pourquoi craindrai-je au jour du malheur lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe ? Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. » Et le verset incriminé est celui-ci, sur lequel nous allons méditer. « Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ils s'imaginent que... » Et ce sera le titre de notre réflexion aujourd'hui. « Ils s'imaginent que... » Un peu plus loin, il est dit, « Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, telle leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. » Voilà pour la situation de notre réflexion. L'enseignement que nous avons tiré des paroles, l'enseignement que nous voulons tirer des paroles de Jésus, souligne la vanité de l'existence fondée uniquement sur les réalités et les valeurs temporelles. C'est ce que Jésus veut nous faire entendre quand il dit ceci, « Mais si un homme arrivait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il ? Parce que toutes ces valeurs, elles sont passagères et elles disparaissent. Alors, nous voyons qu'à travers le premier verset, le psalmiste exprime ses craintes, ses appréhensions que le monde est plongé dans l'iniquité et que tout cela lui suscite de grandes craintes. L'iniquité en tout et partout. Et il fait la description, en quelque sorte, du monde qui est moribond. Dans 2 Timothée, chapitre 3, il est question justement des conditions morales et des conditions spirituelles de la vie dans les derniers temps. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va souligner les choses, et quand il parlera à son ami Timothée, il dira « Sache que ». Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, également rebelles à leurs parents pour les jeunes, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants. Ils seront cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, Et voilà la conclusion que Paul en tire. Il dira, eh bien simplement, ils auront l'apparence de la piété, l'apparence de la foi, une apparence de religiosité, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Alors éloigne-toi de ces hommes-là, nous dit, eh bien l'apôtre. Alors, nous voyons que c'est une interrogation du croyant face au malheur inévitable et de ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe tant sur le plan des réalités matérielles et physiques, mais également sur le plan moral, et la crainte qui s'y rattache, crainte inspirée à tort, qui repose que sur des éléments matériels et qui ne sont que de fausses sécurités que les hommes se donnent ou s'échangent ou s'encouragent finalement et bien pour se donner et bien tout simplement et bien là quelques sûretés s'il en est. Mais s'y ajoute un océan d'iniquité, ce que nous avons et bien énuméré il y a un instant, dans lequel en effet s'ébat l'incrédule et le méchant, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, quoi qu'il en soit. Dans le verset 7, eh bien, il est dit ceci, ils ont confiance en leurs biens, ils se glorifient de leur grande richesse, et nous voyons que là, à ce moment-là, eh bien, et verset 8, on peut le lire également, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. En quelque sorte, nous avons, eh bien, c'est un paradoxe qui apparaît, c'est que le croyant, qui lui a foi en Dieu, craindrait, et craint peut-être pour l'incrédule, qu'il se repose en paix dans des richesses injustes, mais qu'il ne voit pas l'aboutissement de la vie, de l'existence, où il perdra tout, puisque nous l'avons vu et nous en reparlerons d'ici quelques instants. L'homme sans Dieu fait de ses biens une gloire et proclame hautement sa force, sa sécurité, son supposé bonheur. Au verset 8, nous l'avons, et je voudrais dire quelques mots, mais voilà l'envers du décor. Tout ce que le monde offre peut certainement s'acheter, d'une manière ou d'une autre, avec de l'argent, avec de l'or, enfin ce que l'on veut, sauf une chose essentielle, c'est-à-dire le prix, la valeur de son âme, sa vie réelle, celle qui demeure. Alors, nous allons poursuivre notre réflexion, aller un peu plus loin à travers quelques petits éléments de commentaires. Et là, nous avons véritablement, eh bien, quelque part, au verset 9 et au verset également 10, il est question de ces paroles où, véritablement, et nous l'avons vu, les fausses assurances où l'intemporel ne s'achète pas, c'est-à-dire les valeurs spirituelles, les valeurs d'en haut. L'inéluctable aboutissement de l'existence terrestre, parce que nous le savons, et cela peut être résumé de cette manière, eh bien c'est que tout passe, tout lasse et tout casse, c'est-à-dire tout a une fin, et que nous sommes interpellés à travers le message biblique et évangélique à nous préparer, et nous le savons bien, dans les choses de la vie, dans les choses des activités humaines, dans la famille, dans tout ce que nous pouvons imaginer et vivre, partager les uns avec les autres, eh bien c'est qu'il y a un début, il y a un commencement, il y a toujours une fin. Et l'homme sans Dieu, eh bien précisément, se fait une force de toutes, et s'en fait une force et une gloire pour dire que quelque part, eh bien, c'est dans cela qu'il recherche un bonheur, un supposé bonheur. Et nous avons en effet, eh bien, ces paroles qui nous sont laissées dans ce psaume pour nous pousser à la réflexion. Et dans ce verset 9, nous avons donc cette poursuite de l'homme avec ambition, d'une manière vaniteuse, faire soi-même son salut, c'est-à-dire sa rédemption, avec des valeurs temporelles. Et tout cela, eh bien, est impossible et inaccessible de cette manière. Nous croyons que, eh bien, il n'y a qu'un seul moyen de gagner, de pouvoir préparer, eh bien, la dimension spirituelle, c'est tout simplement, eh bien, là, de se tourner vers Dieu, de penser à Dieu, de prier Dieu, de lui demander sa grâce. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de commune mesure entre le temporel et l'éternel qui ne peuvent se conjuguer l'un et l'autre. Un fait inéluctable, et j'y reviens, un jour, l'homme meurt. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'il y a l'inéluctable aboutissement de l'existence terrestre. Et le verset principal que nous voulons prendre en considération, il approche, c'est-à-dire que nous sommes appelés à ce réalisme de la mort où tout se règle, tout se solde et tout s'éclaire à la lumière de l'éternité. Et c'est pour cela que nous avons cette exhortation que, eh bien, Dieu a créé véritablement une réflexion dans le cœur de l'homme pour qu'il pense à son éternité et s'y prépare. Le verset 11 nous dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est le chemin de l'égalité, il est parfait, il est total et il est définitif. Alors voilà ce que nous pouvions déjà mettre en avant dans notre réflexion. Et l'insensé, on peut l'ajouter, est par nature celui qui n'y réfléchit pas, alors que le sage y pense, il s'y prépare. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure, et je le répète à dessein, que donnerait un homme pour sauver son âme, gagner le monde entier, conquérir je ne sais quelle fortune ou territoire ou autre chose? Eh bien, en effet, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas d'échange et il n'y a pas de troc. Or, l'homme s'imagine que finalement l'argent achète tout et que les moyens que nous avons sur cette terre, ils ne sont que pour cette terre, ils ne sont pas pour, en effet, dans l'autre partie. Alors, nous avons justement ce titre, je l'ai choisi à dessein, il nous est dit qu'il s'imagine. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Ils s'imaginent que. Ils s'imaginent toutes les espérances s'appuient, toutes leurs espérances, je précise, leurs espérances s'appuient sur des fondements illusoires sortis de leur propre convoitise, de leur propre désir, de leur propre pensée. Leur empire, fruit de leurs efforts et labeurs, ça ne veut pas dire que c'est malhonnête, finalement, d'avoir les moyens, mais tous leurs efforts leur apparaît comme inébranlables et indestructibles sur lesquels ils ont tout misé. Mais en fait, la Bible est claire, elle nous dit que tout cela, c'est un géant au pied d'argile, c'est-à-dire, c'est du néant. Ce n'est rien. Et nous savons très bien que quand quelqu'un quitte cette terre, il n'emmène rien avec lui. Et il n'y a plus qu'une chose. Il laisse son corps, naturellement, nous le savons, et de quelle manière. Mais une chose qui est certaine, c'est que où est son âme dans cette affaire et où est son esprit? Et Jésus nous donne la réponse parce que ce n'est pas seulement l'âme uniquement, mais c'est l'esprit. Et Jésus à la croix, lorsqu'il va rendre le dernier soupir, il se tournera vers son Père en disant « Père, je te remets mon esprit ». Entre tes mains. Donc il y a une dimension, spirituelle. Donc voilà, toutes ces choses nous sont rappelées malgré cela. L'ambition des hommes est constante et de perpétuer leur nom, leur mémoire, leurs œuvres devenues une idole. Et nous voyons le comportement humain, devant l'argent, devant leurs propriétés, devant leurs biens, devant ce qu'ils possèdent, et leurs richesses, tout ce qu'ils ont pu accumuler pendant leur vie, tout cela peut et devient une idole. Une remarque à faire, c'est que la notoriété sur la terre, que ce soit les titres ou les possessions, ou la position, n'est en rien un passeport pour le salut éternel. Ce n'est que vanité, ou ce n'est que la vanité de l'orgueil. Je relis, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Et nous verrons d'ici quelques instants, un fait, un récit d'histoire qui est le récit des hommes dans les premiers âges, dans les premiers temps, celui de la tour de Babel. Nous en parlerons d'ici quelques instants. Alors, nous savons que dans tout cela, il y a quelque chose, c'est la grande illusion de l'âge d'or et du bonheur sans fin sur la terre. Mais la terre a une fin, la vie a une fin, nos position, tout ce que nous sommes a une fin. Parce qu'une vie sans Dieu, c'est une existence sans but. Et nous savons, je l'ai dit il y a un instant, Babel est, nous pourrions dire, le grand mensonge et l'illusion, le royaume des naïfs. des hommes naïfs, le piètre espoir des philosophies transhumanistes. Et Jésus nous le dit bien, il nous le rappelle, mais sans moi, souvenez-vous, sans moi, c'est dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut faire beaucoup de choses sur la terre, on peut réaliser beaucoup de réussites, beaucoup de succès, beaucoup d'accumulation de toutes sortes de choses, mais quand même, Jésus nous dit, quoi qu'il en soit, parce que c'est un autre positionnement, il n'est pas physique, il n'est pas matériel, il est moral et spirituel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'imagine que... Alors, tout cela, eh bien, est quelque chose, en effet, qui nous parle, et nous en arrivons maintenant à cette conclusion, parce que ce sont des paroles terribles, et quand il est dit que, eh bien, quelque part, c'est pas les choses de cette terre qui nous sauvent, et ces paroles sont terribles et tragiques, du sort de l'incrédule dont l'image du bétail que l'on mène à la boucherie, et qui ne réagit pas au sort qui lui est réservé. Les hommes pensent à tout, les hommes composent toutes sortes de stratégies, toutes sortes de projets, toutes sortes, en effet, d'idéaux, et puis quelque part, eh bien, à un moment donné, ils vont partir. Comme une bête qui est amenée à l'abattoir, elle se rend compte de rien, elle n'a rien préparé, elle est là dans, tout simplement, elle est menée. Quoi qu'il en soit, et ça c'est une parole qui est véritablement tragique de pouvoir le retrouver dans notre texte, mais l'homme en honneur n'a pas de durée, il semble aux bêtes que l'on ne gâche. Telle est la voie, leur folie, leur voix, leur pensée, leur seul projet d'existence, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Et nous savons que c'est aussi un texte du livre dans les psaumes quand il est dit « Mais l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu », tout simplement. Là, les avertissements de Dieu, les paroles de Dieu, les exhortations à la réflexion, à la sagesse, à la prudence, qu'il y a une autre dimension qui est, qui nous est cachée et qui est inaccessible avec nos yeux et nos sens, mais c'est une réalité quand même, parce que l'homme a une âme, il a un esprit, et Dieu lui parle, quoi qu'il en soit. Alors, leur voix, leur folie, leur salaire. Telle voix paraît droite à un homme et son ici, eh bien c'est tout simplement la mort. La première qui nous amène à perdre notre corps et la deuxième qui nous amène à perdre notre identité morale et spirituelle. Et c'est ce que l'on appelle tout simplement la seconde mort. Alors, nous voyons que dans tout cela, en revenant et en terminant notre réflexion, il s'imagine que, et il y a un mensonge qui est à l'origine de l'incrédulité des hommes, qui est à l'origine de la refus de croire au message divin, à l'appel de Dieu, c'est tout simplement devant les biens, devant l'enrichissement, devant la gloire, devant l'honneur, c'est ce que le diable dira. Eh bien, à Jésus, dans la deuxième tentation, il dira « Mais si tu te prosternes devant moi, si tu te inclines devant moi, si véritablement tu veux faire foi, faire confiance au mensonge, plus qu'à la vérité, alors à ce moment-là, moi, tous ces royaumes de la terre, toutes ces richesses, toutes ces splendeurs, je suis capable de te les donner, mais à une condition, tu te prosternes et tu m'adores. » Et moi, je crois qu'il y a énormément d'hommes, de femmes dans notre monde, eh bien, qui sont là, qui ont fait finalement de leur vie, qui ont fait de leur bien surtout, de leur argent, de leur situation, une idole. Et nous croyons qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alors attention à l'imitation moutonnière, le conformisme et d'être comme tout le monde, quoi et à qui. Eh bien, l'on s'identifie tout simplement. Et je terminerai par cette simple parole que nous avons dans l'histoire de la tour de Babel. Et ça, c'est l'histoire du monde à l'origine, ou presque à l'origine, et qui nous montre que les hommes se sont là tenus dans protester dans l'indépendance, pour l'indépendance de leur Dieu, de leur Créateur. Écoutez bien ce passage, il est tout simple. Dans Babel, chapitre 11 du livre de la Genèse, il est dit ceci, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. » Ils se sont regroupés ensemble. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment, c'est-à-dire qu'il y a toujours une transposition de la réalité, de ce qui est réel, pour des choses artificielles, hein, parce que quand on paraît la brique et en effet le bitume, hein, par rapport au ciment et tout ça, c'est toujours une transposition, hein, entre ce qui est normal, naturel, et ce qui est artificiel. Et ils se sont dit à un moment donné, eh bien allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Il y a là en effet une proposition pleine d'orgueil, pleine en effet, eh bien, d'énergie pour prendre leur indépendance. Leur indépendance. Bâtissons-nous une ville ou une tour dont le sommet touche le ciel. Alors, c'est aussi une autre ambition de toucher le ciel. Montons jusqu'au ciel et faisons-nous un nom. Le nom dont on parlait tout à l'heure, nous l'avons lu, hein, et nous l'avons souligné quand il est dit « Mais l'homme est en honneur et il n'a pas de durée. » Il est semblable, naturellement, eux, ceux dont les noms sont honorés sur la terre. Alors, nous avons certainement beaucoup de choses à dire, mais nous ne pouvons pas prendre le temps maintenant. « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, l'Éternel descendit pour voir la ville, parce que rien... » Eh bien là, on empêche Dieu de voir ce que les hommes sont et ce qu'ils font. Et il se disait finalement, eh bien, qu'il y avait certainement, eh bien, une chose à intervenir pour que l'homme ne se perde pas totalement. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ça n'a pas empêché les guerres, ça n'a pas empêché les tueries, ça n'a pas empêché les génocides, ça n'a pas empêché tout cela. Mais ils étaient partis finalement dans une voie qui était contraire à la vérité et à l'amour. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, dit Dieu, et confondons leur langage. Alors c'est certainement, eh bien, toute l'origine de toutes ces langues qui existent de par la terre et qui font que là, les hommes s'entendent encore beaucoup moins. Afin qu'ils n'entendent plus la langue ou le langage les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre, ils cessèrent de bâtir la ville, leur projet s'écroule, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là aussi que l'Éternel les dispersa sur la surface de la terre. Alors il y avait certainement à Babel une noble ambition d'union, de pouvoir trouver, eh bien, là, les forces, mais ça n'a pas été amené, ça n'a pas été conduit, ça n'a pas été, eh bien, là, inspiré par une pensée, une motivation d'unité et une notion d'amour. Et nous voyons que là, nous pouvons, eh bien, terminer tout simplement sur ce que nous avons, eh bien, là, titré ce message. Ils s'imaginent que leurs maisons sont éternelles. Nous avons répondu à cette question. Que leur demeure subsiste d'âge en âge, de faire finalement, eh bien, des dynasties, si on peut dire, hein, pour que leur nom soit honoré sur la terre. Mais nous voyons que notre nom, eh bien, va disparaître très vite après notre disparition. Même les plus grands, ils n'auront que, pour les hommes qui seront restés sur la terre, hein, que des noms peut-être sur des plaques, hein, que ce soit la plaque d'un cimetière ou les plaques, en effet, indiquant les rues, ou des peut-être à des carrefours ou à des places ou des choses comme ça, mais tout ça, eh bien, ça ne, tout ça, c'est de, en quelque sorte, c'est de l'artificiel. Alors, je crois que quand Jésus nous rappelle et nous dit cette parole qui est quand même importante, mais que servirait-il à un homme? Que donnerait un homme pour gagner le monde s'il perdait son âme? Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, mais ça lui servira à quoi? Parce que il y a une autre dimension auquel nous sommes interpellés pour nous approcher de Dieu, pour demander pardon à Dieu, pour nous repentir en quelque sorte, hein, et de nous convertir parce que c'est Jésus qui lui a donné sa vie. Il l'a donné à la croix, il est mort à notre place, en lieu et place pour nous, parce que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Le texte nous le dit, mais ils ne sauveront pas leur âme. C'est pas possible, hein, parce que il fallait qu'il y ait devant là l'iniquité du monde et l'iniquité d'hier, du monde d'hier et d'aujourd'hui, il fallait que quelqu'un de juste, de pur, de saint meure à notre place. Et nous, la seule chose qui nous est réclamée, c'est tout simplement de croire, d'y croire et d'accepter Jésus comme notre sauveur personnel, de laisser Dieu transformer notre vie, qui reste une vie de corruption, une vie où nous avons le péché à l'intérieur de nous-mêmes, à travers les défauts, à travers, eh bien, toutes ces choses qui sont naturelles mais qui ne sont pas bonnes. Alors, c'est vrai qu'il y a cette confusion entre le bien et le mal, entre la lumière et tout simplement les ténèbres, hein, à travers toutes sortes de choses qui s'opposent, qui, en effet, s'entrechoquent. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons besoin de prendre maintenant une résolution de nous tenir devant Dieu et de lui donner notre vie, et une vie transformée, une vie qu'il va transformer. Alors que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce et qu'il nous inspire à travers, simplement dans cette réflexion, de ce message qui nous parle, eh bien, en effet, de l'aboutissement de notre vie et d'être prêt à rencontrer notre Dieu pour l'éternité, mais une éternité heureuse qui n'aura rien à voir avec la confusion du monde d'aujourd'hui. Et l'histoire de Babel est là pour nous le dire, et l'apôtre Paul est là aussi pour le contresigner en quelque sorte, quand il dit « sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, certainement les jours qui sont les nôtres, eh bien les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc., etc. Et ils auront l'apparence, et c'est ça peut-être le grand paradoxe, c'est qu'ils auront l'apparence, en quelque sorte, de la religion, de la religiosité, de cette piété, en quelque sorte. Ils auront l'apparence de la foi, mais ils en renieront la force, parce que ce n'est pas de le déclarer, ce n'est pas de le proclamer, mais c'est de le vivre d'une manière pratique tous les jours, où là, eh bien, doit apparaître dans des vies nouvelles l'amour, la charité, à travers les bonnes dispositions et de pouvoir tendre jour après jour au bien que Dieu a mis devant nous. Et ce bien demeurera pour l'éternité. Que Dieu nous bénisse et à bientôt sur notre site. Merci beaucoup de votre écoute.